Ce matin, nous voulons continuer sur le thème de l'onction. Et avec tout ce que nous avons dit sur ce sujet, maintenant on veut parler des excès qui peuvent découler de nos propres enseignements. Vous savez, le peuple de Dieu a le chic pour amener les vérités à l'extrême. Le diable, s'il ne peut nous freiner, il va nous pousser. Alors d'abord, il essaye de nous empêcher de rentrer dans l'appel que Dieu a sur notre vie, en essayant de nous empêcher de parvenir à la connaissance qui va nous propulser dans cette destinée, dans cet appel, dans ces dons. Parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, et la Bible dit « Vous connaîtrez la vérité vous affranchira ». Donc il faut prendre connaissance de certaines vérités pour être affranchi. Maintenant, quand il n'a pu vous empêcher de parvenir à la connaissance de ces vérités, il va donc changer de tactique, il va essayer de vous faire déraper avec ces mêmes vérités. Et nous voyons les réveils être stoppés par la même cause qui les a permis de démarrer. Les mêmes chrétiens qui ont pris enfin connaissance de cette vérité qui les a franchis utilisent maintenant souvent cette vérité poussée à l'extrême pour détruire. Parce que le diable ne les stoppe plus maintenant, il les pousse. Et donc le Seigneur révèle qu'un chrétien peut avoir besoin de délivrance et d'un coup vous vous retrouvez avec des gens qui voient des démons partout. Et vous ne pouvez pas avoir un contact normal avec eux sans qu'ils essayent de vous chasser un démon. Le Seigneur remet en évidence la personne du Saint-Esprit et beaucoup de gens, dès lors, ne prient plus le Père au nom de Jésus, ils ne prient plus que le Saint-Esprit. Le Père et le Fils ont disparu. C'est une autre extrême. Est-ce que vous me suivez? Et nous devons apprendre à rester au milieu. Parce que le diable se trouve aux deux extrêmes. Et parfois, nous croyons lui avoir échappé parce que nous avons fui un extrême, mais nous sommes encore entre ses mains parce que nous nous sommes jetés dans l'autre extrême. Est-ce que ça parle à quelqu'un, cette vérité? Et souvent, lorsque vous prêchez, des personnes reprennent ce que vous dites et le transforment, le poussent à l'extrême. Font un mauvais travail avec la vérité que vous leur avez communiquée et souvent, ça retombe sur vous. Donc, sur un sujet aussi délicat que l'onction, parlant de manifestations aussi bizarres, j'aime bien aussi rétablir un équilibre. Alléluia! Et c'est le thème de ce message ce matin, excès et équilibre, qui nous parle de l'importance de gérer l'onction. Quelqu'un dira, est-ce qu'il faut gérer l'onction? Vous savez, le Seigneur, il est tellement grand, il est tellement humble à la fois, qu'il sait être en même temps le maître et le serviteur. Et il dit à Ézéchiel, parle à l'Esprit. Mais qui c'est l'Esprit? C'est Dieu l'Esprit. Amen. Et il faut qu'Ézéchiel parle pour que l'Esprit puisse être agissant. Donc Dieu gouverne et en même temps il nous dit, donne des ordres à mon esprit. Ouh, il faut avoir de l'humilité pour ça. Évidemment, des ordres inspirés par l'Esprit. Est-ce que vous me suivez? Lors des séminaires que nous donnons et créer un contexte dans lequel une onction supérieure et qui va en augmentant se manifeste. Nous nous rendons compte que des situations depuis longtemps sans solution sont résolues, il y a eu des témoignages de guérison hier, que des personnes sont touchées et changées au plus profond d'elles-mêmes. Mais nous nous devons aussi de constater, parce qu'il faut être lucide, que d'autres personnes perdent les pédales au contact de cette onction. Le mauvais en eux se révèle et est exposé. L'onction, lorsqu'elle augmente, comporte une action bénéfique et aussi une onction dangereuse. Vous avez décidé de venir à ce séminaire, vous pouvez repartir meilleur ou pire en fonction de ce que vous laissez faire l'onction dans votre cœur. Est-ce que vous le savez? Vous avez une grande joie si vous utilisez cette onction pour devenir meilleur, mais vous pouvez devenir pire justement parce que vous avez entendu les choses que vous avez entendues, parce qu'il va vous être demandé plus. Je suis désolé, vous êtes en danger ce matin. Une question que les gens doivent se poser régulièrement en voyant le comportement déséquilibré de certains chrétiens qui pourtant sont visités par le Saint-Esprit de manière très visible. Comment prendre au sérieux ces visitations lorsqu'elles concernent de telles personnes? Et je ne fais allusion à personne que j'ai vu pendant ce week-end parce que je trouve que ça se passe très bien. Donc personne ne se sente visé. Alléluia. Mais j'aime bien mettre en garde. Comme lorsque nous avons une réunion de guérison, c'est bien d'être guéri. Mais ça va être important d'apprendre à garder sa guérison. Parce qu'en sortant, le Seigneur, le diable plutôt, il va essayer de récupérer ce qu'il a perdu. Et si on le laisse revenir, il va revenir cette fois plus fort. Mais rappelez-vous l'enseignement de l'autre soir, ce qu'on veut, c'est le Seigneur cette fois plus fort. Alléluia. Il y a un principe biblique, déjà, c'est que Dieu fait tomber sa pluie sur les bons et sur les mauvais. L'Esprit de Dieu, lorsqu'il souffle, il passe partout où il peut passer. Et le fait d'être visité n'est pas un cachet de la part du Seigneur qui signifierait quelque chose du genre « cette personne qui est par terre est très spirituelle ». Non, comme pour le blé livré, c'est avec le temps que les choses se clarifient dans la vie. Le blé livré, ça se ressemble, et souvent il ne faut pas arracher l'un de peur d'arracher l'autre. Mais il faut laisser croître, alléluia, et à un moment donné, on discerne la différence. Il y a des gens qui sont trop perfectionnistes, ils voudraient que tout marche de suite dans leur église. Non, il faut laisser croître, le blé est livré. Et lorsque les choses ont pris le temps de croître, on a des surprises. Il y a des gens sur lesquels on pensait compter, et bien finalement on ne peut pas compter sur eux, et d'autres on pensait ne pas pouvoir compter sur eux, et quand ils ont grandi en maturité, on se rend compte que ce sont les gens que Dieu a placés à nos côtés. Donc il faut y aller cool avec le Seigneur. L'onction de Dieu produit chez les gens deux réactions. Elle les rend meilleurs si ceux-ci lui permettent d'agir, ou elle les amène à révéler leur vraie nature. De toutes les façons, la pression de l'esprit ne laisse pas indifférent. L'Écriture nous enseigne que le vin nouveau versé dans les vieilles outres les fait éclater. C'est bien de recevoir le vin nouveau, mais il faut s'assurer que nos mentalités sont réformées. Alléluia. Sinon, nous allons éclater quelque part à un moment donné. Matthieu 9, 17, on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdus. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. C'est pourquoi nous annonçons la parole de Dieu, c'est pour réformer les mentalités, pour que ce que nous recevons, nous puissions le garder et ne nous fasse pas du mal, au contraire, nous fasse du bien, non seulement à nous, mais à ceux aussi que Dieu met sur notre route. C'est ce qui se passe avec certaines personnes. Elle disjoncte, comme on dit. C'est pas le vin nouveau qui doit être remis en question, mais la qualité des outres, la qualité de la mentalité. L'onction révèle les cœurs. Il en est comme de ces ballons que l'on teste avant de les commercialiser. Vous savez, on les gonfle avec une certaine quantité d'air. Et ceux qui sont de bonne qualité tiennent le coup. Les autres, ils explosent. Pourtant, ils ont reçu les deux le même air, hein. L'onction, on a dit que c'était comme l'électricité. L'électricité, ça nous permet de parler dans un micro ce matin, d'avoir de la lumière. Amen. Des projecteurs, ça chauffe. Mais si vous mettez les deux doigts dans la prise, c'est la même électricité, mais le résultat ne va pas être le même. Le meilleur exemple de la parole de Dieu sur ce sujet est celui de Saül. Alors qu'il s'était déjà bien détourné du Seigneur, l'Esprit de Dieu le visite quand même, alors que Saül s'était déjà bien détourné du Seigneur. Donc ce n'était pas un critère pour dire « Saül marche dans mes voies », mais Dieu dans sa grâce l'a visité quand même. Alléluia. Vous savez que Dieu est rempli de grâce. À Jézabel, dans l'Apocalypse, quelle onction. Il dit « Je lui ai donné du temps ». Dieu nous donne du temps dans sa grâce. Même quand on a déraillé, il nous donne du temps. Et ce n'est pas parce qu'il ne nous a pas jugés, qu'il n'a pas permis que nous soyons frappés, qu'on doit utiliser ce temps pour devenir pire. On doit l'utiliser pour revenir en arrière, pour ne pas parvenir un jour au jugement. Alléluia. Utilisez le temps que Dieu vous donne. Ce temps, c'est de la grâce. Saül, alors qu'il était déjà bien détourné du Seigneur, bien l'Esprit de Dieu le visita encore et à diverses reprises. Il se mit à prophétiser sous l'onction. Il est tombé prostré un jour et une nuit sous cette même onction. Et le problème, c'est qu'il ne se relevait pas chaque fois pour devenir meilleur, mais au contraire pour devenir pire. Et son comportement, il allait en empirant jusqu'à provoquer sa destruction. Mes amis, Dieu ne forcera jamais personne à changer, quelle que soit la force de la visitation qu'il lui accorde. Parce qu'il y a un facteur très important, c'est le libre arbitre. Moi, je crois qu'il faut prier pour les gens, mais vos prières ne convertiront jamais personne de force. Parce que quand il s'agit de choisir, la Bible dit que c'est du mari si tu sauveras ta femme, que c'est du femme si tu sauveras ton mari. Le salut, c'est une question de choix. Tous les jours, je me lève et je fais le choix de ce que doit être ma vie. Alléluia. Et personne ne peut faire ce choix à ma place. Les gens peuvent prier pour que les meilleures circonstances soient placées dans ma vie pour que je fasse les bons choix. Mais devant le choix, je suis le seul responsable. Alléluia. Et nous devons responsabiliser le peuple de Dieu. Ce n'est pas la faute à votre pasteur, ce n'est pas la faute à votre mari, ce n'est pas la faute à vos enfants. Alléluia, c'est vous qui devez prendre vos responsabilités. Et un chrétien ne s'en sortira jamais quand c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. C'est une histoire d'ailleurs qui remonte à très longtemps. Lorsque Dieu a placé l'homme et la femme dans le jardin, qu'il est venu les trouver en leur demandant des explications quant au fait qu'ils aient péché, l'homme il a dit, c'est pas moi, c'est la femme que tu as placée à mes côtés. Puis la femme elle a dit, c'est pas moi, c'est le serpent. Alors la Bible ne nous dit pas ce qu'a dit le serpent, mais il a dû dire, c'est pas moi, c'est ta faute, tu n'avais qu'à pas nous créer. Ça ne veut pas dire qu'on doit peser sous des fardeaux de culpabilité, non. Il y a une grâce, il y a un pardon, il y a la puissance d'un sang qui est mis à notre disposition. Alléluia, autant s'en saisir. Mais ne restons pas dans notre état. Alors, suite aux visitations de l'Esprit Saint, certains deviennent meilleurs, d'autres perdent les pédales. Et d'ailleurs, il est dans le plan de Dieu qu'il en soit ainsi, et il ne faut pas s'étonner de ce phénomène. Nous venons en réunion de l'Église, nous recherchons la présence et la visitation du Saint-Esprit pour devenir meilleurs, meilleurs chrétiens, meilleurs adorateurs, meilleurs maris, meilleures épouses, meilleurs parents, meilleurs enfants. Alléluia. Si nous sommes dans le ministère, meilleurs pasteurs. Amen. Et vous allez rentrer dans vos églises, pas pour devenir pire, pas pour en faire avoir de toutes les couleurs à vos pasteurs, mais pour leur montrer que vous êtes devenus meilleurs. Le problème, c'est que beaucoup de gens reviennent de ces séminaires et mènent la vie impossible à leurs autorités. Et donc après, ces autorités disent, c'est ça que tu as reçu dans le séminaire ? Le mari dit, c'est ça qu'ils t'ont appris ? De devenir si désagréable à la maison ? Amen ? Donc la différence doit se voir. Trop d'enfants de Dieu deviennent pires en venant à l'église au lieu de devenir meilleurs. Il ne laisse pas le Seigneur travailler l'intérieur lorsqu'il les visite. Or, le but des visitations extérieures est de travailler l'intérieur. Si nous ne voulons pas devenir meilleurs, nous sommes en danger quand le Saint-Esprit souffle. Et lorsque le vent souffle, il souffle sur les volets de toutes les fenêtres, les volets qui ne sont pas attachés, comme ceux qui sont attachés, mais ceux qui ne sont pas attachés se mettent à battre et certains se briseront à force de battre, justement parce que l'Esprit de Dieu a soufflé sur ces volets. Est-ce que vous me suivez ? Assurez-vous que les volets sont bien attachés. Tourne-toi vers ton voisin, dis-lui, les volets sont bien attachés. Et s'ils ne sont pas bien attachés, ne pars pas de ce lieu sans les avoir attachés. Et ce message peut te permettre d'éviter des problèmes. Alléluia pour ces manifestations de l'Esprit que l'on qualifie de vin nouveau. Mais nous devons nous rappeler que le vin peut tourner. Et c'est ce qui s'est passé dans certaines églises qui ont été puissamment visitées dans les années passées par cette onction. Parce que la manifestation de l'onction est quelque chose qui doit se gérer. Par gérer, nous ne voulons pas dire que nous devons contrôler le Saint-Esprit, mais nous devons apprendre à couler avec le Saint-Esprit. N'oublions pas que nous devons rendre compte de ce que nous faisons avec les dons que nous avons reçus. Il y a une parabole qui nous dit, amen, qu'on reçoit des dons et qu'à la rigueur, nous sommes libres de faire ce que nous voulons de ces dons. Mais il nous est demandé des comptes par rapport à ce que nous avons fait de ces dons. Amen. Tu peux avoir l'onction sur toi et t'amuser à faire tomber les gens par terre. Ce n'est pas parce qu'ils tombent par terre que Dieu t'a demandé de les faire tomber. L'onction est sur toi. Mais tu devras rendre des comptes de ce que tu as fait avec cette onction. Est-ce que tu l'as utilisée pour t'amuser ? Ou est-ce que tu l'as utilisée pour amener les gens quelque part ? Wouh ! Je me fais du bien, moi, quand je prêche. Souvent je me dis, si je suis le seul à recevoir mon message, c'est pas un problème, au moins j'ai pas prêché pour rien. Je m'avance à l'appel tout à l'heure, je m'impose les mains et le séminaire est réussi. Alors il y aura toujours quelques personnes pour donner libre cours à des débordements avec n'importe laquelle des expressions et vérités du Saint-Esprit. Attention, ce que j'appelle débordement, moi, c'est pas quelqu'un qui se roule par terre, qui saute et qui éclate de rire. Vous savez, l'ordre de Dieu, c'est pas être calme ou c'est pas être excité, c'est être excité au bon moment et être calme au bon moment. Est-ce que vous me suivez ? Celui qui est dans le désordre quand tout le monde est excité, c'est celui qui reste calme. Est-ce que vous me suivez ? Et celui qui est excité quand l'Esprit de Dieu nous pousse à être calme, là il est dans le désordre. Est-ce que vous me suivez ? Donc, il y aura toujours quelques personnes pour donner libre cours à des débordements, à commencer par nous-mêmes si nous ne veillons pas. Mais il vaut mieux un feu qui prenne de temps en temps au rideau que pas de feu du tout. De peur d'avoir le feu qui prenne au rideau, beaucoup de gens ont cessé l'expression des dons de l'esprit dans leur milieu. Vous savez qu'une réunion comme hier, atelier prophétique, c'est très dangereux. Parce que les gens peuvent prendre le micro et vous amener dans des sphères où vous n'avez pas envie de les suivre. C'est pourquoi, vous avez vu, nous mettons deux personnes pour gérer les choses. Mais ça s'est bien passé hier. Amen. Mais ce n'est pas parce qu'il peut y avoir des débordements qu'on doit supprimer ce genre de réunion. Parce qu'il est dans le plan de Dieu que tout s'exprime. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que tout s'exprime et tout ce qui va être dit ne va pas obligatoirement être de Dieu, mais elle nous dit « examinez toutes choses ». Donc nous devons avoir assez de maturité pour pouvoir avoir ces réunions au milieu de nous et examiner toutes choses. Et dire, tiens, lui c'était bien, j'ai reçu, lui je ne reçois pas, lui je ne reçois que la moitié, lui je reçois 90% parce que j'ai assez de maturité pour discerner ce qui vient de l'esprit ou ce qui ne vient pas de l'esprit. Amen. Mais ce qui s'est passé hier, c'était très bien. Ouh. Alors il vaut mieux un feu qui prenne de temps en temps au rideau que pas de feu du tout. Hein? Et il y aura toujours des excès. Il nous faut apprendre à discerner ces excès. La pression causée par la présence de l'onction dérange aussi sérieusement les démons. Certains sortent dans ces moments. D'autres peuvent essayer de créer du trouble. Je voudrais exposer ici une réalité qui, incomprise, nous empêche de pénétrer bien loin dans les choses de l'esprit. C'est ce que j'appelle, moi, le principe des deux esprits. Il faut enseigner ça au peuple de Dieu. Certaines visitations de l'esprit ayant si bien démarré finissent dans la confusion, le mysticisme et le délire. On connaît tous des gens qui sont allés jeûner 40 jours pour chercher la face de Dieu, ils sont revenus, ils étaient complètement fous. Et pourtant ils ont cherché la face de Dieu. Amen. Jésus fut conduit dans le désert pour être tenté par le diable. Il y a des moments où tu vas chercher la face de Dieu, mais la première personne que tu rencontres, c'est pas Dieu, c'est le diable. Et si tu n'as pas assez de discernement, tu vas te faire avoir par lui. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi la Bible nous dit de prier et de veiller. Ça ne suffit pas de prier. Je peux devenir mystique en priant et en jeûnant. Je peux devenir à moitié fou en cherchant la face de Dieu. Pourtant, au départ, j'étais bien intentionné. Pourquoi? Parce que j'ai prié, mais je n'ai pas veillé. Et le diable se déguise en ange de lumière. Donc, quand je cherche la face de Dieu, le premier piège du diable, vous savez, c'est de faire quoi? C'est de dire, je suis Dieu et je vais te parler. Un homme de Dieu dit qu'il lui fut montré que dans le monde spirituel, il y a une sorte de démon dont la qualité, le travail, c'est vraiment de refaire la voix du Saint-Esprit. Et que chacun de nous s'est fait régulièrement avoir et se fait parfois encore avoir par la voix de ce démon. Parce qu'au départ, quand on manque de maturité, on ne discerne pas entre la voix de ce démon et la voix du Saint-Esprit. Quelle est la différence? Le Saint-Esprit va toujours glorifier Jésus. Le diable, il va te glorifier. Donc faites attention à ces prophéties qui disent à quel point tu es un grand serviteur de Dieu. Toutes les grandes choses que Dieu a pour toi, que tu as un appel spécial par rapport aux autres. Il savonne à la planche, là. Ça fait du bien à l'ego, mais danger. C'est l'homme qui est glorifié, c'est pas Jésus. Or le Saint-Esprit, il a été envoyé pour glorifier Jésus. Alléluia. Ça me tue, moi, les gens qui viennent me trouver, j'ai reçu un appel spécial. Ben oui, mais tout le monde a reçu un appel spécial. Vous n'avez pas reçu un appel, vous? Vous n'avez pas reçu une destinée? Donc, c'est spécial. Donc, t'es spécial. T'es spécial. L'appel de chacun de nous est spécial. Il n'y a pas des gens qui reçoivent un appel plus spécial que d'autres. Chaque appel est unique. Amen. Dieu ne fait pas de photocopie. Dieu est original. C'est un original. Il crée des originaux. Assurez-vous que vous êtes assez original. Et si vous me trouvez un peu original, c'est le meilleur compliment que vous puissiez me faire. Pierre se fit féliciter par Jésus pour avoir reconnu dans son cœur la voix du Père, lui révélant que Jésus était le Messie attendu. Et Jésus lui dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père dans les cieux. Alléluia. Et Plus tard, il est rabroué par le même Jésus en ces termes, alors qu'il est plein de bonnes intentions. Il dit à Jésus qu'il ne voudrait pas qu'il soit crucifié, alors que Jésus est en train d'annoncer qu'il doit passer par la croix. Et il se tourne vers lui, au même Pierre à qui il l'a dit peut-être quelques heures avant, quelques jours avant, la Bible ne précise pas, tu as reçu cette révélation de la part du Père, il lui dit, arrière de moi, Satan. Il n'a pas dit, t'es un démon, on va te sauter dessus et t'en chasser trois ou quatre. Il a dit, arrière de moi, Satan. Donc, un chrétien peut être inspiré par le diable sans s'en rendre compte. D'ailleurs, quand on voit le mal que les chrétiens se font entre eux, excusez-moi, mais quand ils se font du mal, ça ne peut pas venir du Saint-Esprit. Amen. La meilleure arme du diable, c'est un chrétien qui ne sait pas discerner où est le diable et là où il n'est pas. Il va le voir là où il n'est pas, et là où il est, il ne va pas le voir. Et Pierre n'est pas un cas isolé. Et nous nous sommes tous trouvés confrontés à ce genre de situation, confondant la voix de Dieu et celle du diable. Est-ce qu'on peut confondre la voix de Dieu et celle du diable? Certainement. Il y a des démons qui travaillent spécialement dans ce sens. Le prophète Balaam se retrouvait à prophétiser par l'Esprit de Dieu, puis à donner des conseils démoniaques à Balak qui voulait détruire Israël. De même, dans les manifestations de l'Esprit, certaines personnes peuvent être un jour remuées par le bon esprit et le lendemain ou quelques heures plus tard par le mauvais. Beaucoup de gens qu'on appelle des prophètes au milieu de nous et à la rigueur même qui ont un appel dans ce sens, parfois 50% du temps ils prophétisent sous l'Esprit de Dieu et 50% du temps ils prophétisent par un autre esprit sans s'apercevoir qu'ils ont changé d'esprit. Et ce qui met la confusion dans l'esprit des gens, c'est que la veille c'était de Dieu et aujourd'hui c'est bizarre. Mais on a tendance à accepter le bizarre quand même parce que la veille c'était de Dieu. Amen. Quand je suis sous l'onction de Dieu, je suis utilisé par Dieu. Quand je ne suis pas sous l'onction de Dieu, je peux faire les mêmes choses que je fais quand je suis sous l'onction de Dieu et ne pas me rendre compte que je suis inspiré par un mauvais esprit. Donc nous devons veiller. Alléluia. Tourne-toi vers ton voisin, dis-lui, il faut veiller. Quand tu sors de ce séminaire, veille. Ne prie pas seulement, veille. Lorsque Moïse changea son bâton en serpent, les magiciens qui s'opposaient à lui ne décidèrent pas de changer une carotte en lapin. Ils ont, comme Moïse, changé leur bâton en serpent, dont extérieurement, les signes étaient les mêmes. Les gens disent parfois, ah ben c'est du diable parce que ça ressemble à ce que fait le diable. Extérieurement, les signes sont les mêmes. Nous l'avons vu hier, amen. Mais ce qui fit la différence, ce n'était pas la forme, mais l'esprit qui était derrière chaque miracle. La supériorité de puissance du miracle inspiré par Dieu par rapport à celui de Satan. La motivation de chaque miracle et le fruit qui découlait de chaque miracle. Oh, oh, oh. On va prier pour les malades tout à l'heure. Alléluia. On veut que les gens sortent de ces séminaires, qu'il y ait des témoignages de guérison. Parce que Dieu est toujours dans le business du miracle. Il y a une catégorie de personnes aussi dans les églises qui sont pendant un temps sous l'influence des deux esprits. Et Dieu, dans sa patience, leur laisse du temps pour discerner et rectifier le tir. Et les gens ne savent souvent pas quoi penser, justement, parce qu'ils les entendent un jour prophétiser merveilleusement et partir dans des délires le jour d'après. J'appelle cela être sous deux esprits. Nous devons apprendre à ouvrir la porte au Saint-Esprit et fermer la porte à l'esprit de l'adversaire. On est d'accord ? Le Seigneur n'a pas remis en question la première confession de Pierre sous prétexte que la seconde n'était pas de Dieu. Et nous ne devons pas remettre en question ce que fait le Saint-Esprit sous prétexte que certains s'ouvrent aux deux esprits. Beaucoup de chrétiens ne savent pas discerner la bannière entre l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur jusqu'à parvenir à une certaine maturité. Il leur faut apprendre à laisser la bonne porte ouverte tout en fermant l'autre. Et c'est la condition nécessaire à la bénédiction profonde et durable. Nombre 14, 24, « Parce que mon serviteur Caleb a été animé de notre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays. » C'est quand on apprend à discerner, amen, l'esprit de Dieu et se laisser animer par cet esprit de Dieu qui nous fait rentrer dans le pays. Les contrefaçons des choses de l'esprit se manifesteront toujours au milieu de nous et cela est normal. À nous de veiller, d'avoir le discernement. Quand quelqu'un vient me trouver et me dit j'ai reçu une parole de Dieu pour toi, si ça correspond, dites-lui je la reçois. Si ça ne correspond pas, dites-lui je te remercie, c'était bien intentionné, mais je ne le reçois pas. Amen. Parce que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, non pas ceux qui sont manipulés. Et nous ne sommes pas sous l'ancienne alliance. Sous l'ancienne alliance, on consultait le prophète. Amen. Sous la nouvelle alliance, l'Esprit de Dieu est venu habiter en chacun de nous. Est-ce que vous savez cela? Donc si Dieu veut dire quelque chose pour ma vie, comme Dieu est poli, avant d'en parler à tout le monde dans la salle, il va m'en parler à moi. Et lorsque quelqu'un, même le plus grand des prophètes, va venir me dire « Dieu m'a montré ça pour ta vie », je dirai « Je le reçois parce que c'est déjà là. » Tu vas me donner peut-être des détails que je n'avais pas, tu vas me donner des précisions que je n'avais pas, et je les reçois, mais je les reçois parce que... Et d'ailleurs, pourquoi il ne parlerait pas? Puisqu'il habite ici. Amen. Tu parles à ta femme tous les jours. Oui. C'est vrai? Tous les jours? Il ne boude pas des fois, trois jours, quoi, il ne te parle pas? Et pourtant, tu n'habites pas en lui, tu habites à côté de lui. Alors s'il te parle tous les jours alors que tu habites à côté de lui, et tu lui parles tous les jours, à plus forte raison, Dieu peut nous parler, on peut lui parler, parce qu'il habite en nous. Amen. Chez certains, il a plus de place que d'autres, d'ailleurs. Il y a parfois des formes démoniaques. Certaines personnes peuvent produire sous l'influence d'esprits mauvais les mêmes formes extérieures de manifestation que celles de l'Esprit de Dieu. Des formes charnelles. Des gens peuvent essayer d'avoir l'air d'être dans l'esprit et se croire obligés de refaire ce que d'autres font sans pour autant être dirigés ou contrôlés par l'esprit. Elles se forcent à rire, elles se laissent tomber à terre. D'autres encore ont juste envie d'attirer l'attention sur elles. Bon, je me réjouis, je n'ai pas vu de ça pendant ce séminaire. Je me réjouis de ça. Amen. Mais ne vous étonnez pas si, plus en rentrant dans ces choses-là, vous voyez le bon, mais vous voyez le mauvais aussi. Vous savez que le réveil, c'est le meilleur et le pire qui s'affrontent. Donc si vous voulez le meilleur, il faudra aussi voir le pire et gérer le pire. Amen. On parle des grands réveils d'Azusa Street et autres, mais si on raconte ce qui se passait aussi, c'était pas toujours rigolo. Mais nous avons plus de connaissances aujourd'hui pour mieux gérer les choses. Ouh. Daniel a dit, dans la fin des temps, la connaissance augmentera. Repartez avec les CD de cette convention. Ils peuvent changer votre vie et la vie de quelqu'un. L'onction est sainte, elle ne peut subir de mélange. Il en est comme de l'eau et de l'huile. Les deux peuvent être versés dans un même récipient, mais sans se mélanger réellement. De Dieu est pure et reste pure car elle vient du trône de Dieu. Maintenant, selon la pureté du contexte, qui est imparfait, nous sommes tous imparfaits ici, dans lequel cette onction évolue, elle se retrouvera plus ou moins coupée, c'est-à-dire limitée, freinée dans sa mission. C'est pourquoi ce qu'on essaie de faire à travers les louanges, à travers les exhortations, c'est d'amener à purifier de plus en plus l'onction pour qu'elle soit de plus en plus épaisse. Amen. De plus en plus lourde. Vous savez que le mot gloire, dans le grec, sous-entend l'idée de lourdeur. On peut crouler sous la gloire de Dieu. D'ailleurs, dans le texte de Malachie, qui nous dit que Dieu veut nous bénir abondamment, dans le texte hébreu, ça sous-entend qu'il veut nous bénir de telle manière qu'on a tellement de bénédictions dans les mains qu'on ne peut pas contenir toute la bénédiction. Amen. Ça devient lourd, même la bénédiction. Mais pas lourd dans le mauvais sens du terme. C'est tellement lourd qu'il faut s'en débarrasser sur les autres. Et donc bénir les autres. Vous ne voulez pas voir les gens arriver dans l'église au lieu de dire oh, « Qu'est-ce qui t'est arrivé encore cette semaine ?» Ça a l'air complètement démoralisé. Le gars, il te dit « J'ai été tellement béni cette semaine. » Oh, il n'y a pas quelqu'un qui veut prendre un peu de ma bénédiction. Ah, moi, je rêve de voir arriver les gens comme ça. Qu'est-ce qui t'est arrivé, frère? J'ai été béni. J'en ai trop. Et comme j'en ai trop, je vais en donner. Nous sommes appelés à faire attention à ce que nous faisons avec l'onction et au contexte que nous créons pour lui permettre d'évoluer aisément. Alléluia. Une des choses importantes, mes amis, apprenez à parler de manière positive. Si nous commençons à parler les choses négatives que nous voyons autour de nous, si nous commençons à parler les défauts de notre mari, les défauts de notre épouse, les défauts de notre pasteur, eh bien, on peut y passer la vie. On est d'accord? Et si on commence à parler les défauts de l'Église, jamais on va pouvoir avoir la vision de l'Église glorieuse que Jésus vient chercher. Et lorsque le Seigneur il appelle Ézéchiel, Il lui dit, qu'est-ce que tu vois? Une vallée d'ossements. Waouh, à vue même, c'était pas très beau à regarder. Des os, un cimetière en d'autres termes. Et parfois, lorsqu'on regarde certains milieux évangéliques, on se dit, c'est pas bobo. Est-ce que je suis entré dans une église ou dans un cimetière? Mais le Seigneur, il dit à Ézéchiel, ne parle pas ce que tu vois avec tes yeux humains, mais parle ce que je vois, moi. Amen. Et prophétise, et parler dans un sens positif, selon l'inspiration du Seigneur, bien sûr, eh bien, c'est prophétiser. Amen. Si vous voulez que de bonnes choses arrivent sur votre futur, sur le futur de vos enfants, ne leur dites pas qu'ils sont incapables, ne leur dites pas qu'ils ne vont pas y arriver, ne leur faites pas manger du Jésus au déjeuner, au repas et au coucher jusqu'à ce que ça leur sorte par les trous du nez et les oreilles. Parlez des paroles positives, attrapez-les, dites-le, le Seigneur est avec toi, tu vas prospérer. Tu as échoué aujourd'hui, mais tu vas prospérer. Peut-être que tu es dans la drogue aujourd'hui, mais je te bénis. Le Seigneur est en train de mettre en place un plan de délivrance. Alléluia. Arrêtez de parler négativement. Le nombre d'enfants qui ont entendu leurs parents parler tellement négativement des choses de la vie et de l'église, qui n'arrivent même plus à mettre les pieds dans une église tellement ils ont entendu de choses folles sur les uns et sur les autres. On n'est pas là pour être avec le diable contre l'église. On est là pour être avec Dieu pour l'église. Amen. Ne devenons pas un instrument entre les mains du diable. Bénir signifie prononcer des paroles positives sur quelque chose et sur quelqu'un. Vous voulez que votre enfant y réussisse, même s'il n'est pas doué, dites-lui chaque jour combien il est merveilleux. Alléluia. Et combien il va y arriver. Alléluia. Maudire, c'est prononcer des paroles négatives sur quelqu'un. Et si la personne les reçoit, il va lui arriver selon ses paroles. Donc nous avons un pouvoir dans notre bouche pour libérer plus ou moins de l'Esprit de Dieu, le pouvoir de bénir et le pouvoir de maudire. Alléluia! Je choisis la bénédiction. Je choisis de bénir. Sortez de ce séminaire et bénissez. Que les gens ne disent pas « tu es devenu pire ». Mais qu'ils voient sans parole que vous êtes devenu meilleur. Alors là, ils vous diront, ben, je veux les voir, tiens. Avant de partir au séminaire, chérie, ah, qu'est-ce que tu me prenais la tête? Mais en revenant, qu'est-ce que tu es douce? Ben, je veux aller voir. La Bible nous dit de séparer ce qui est précieux de ce qui est vil, parce que les deux choses, le précieux et le vil, se côtoient parfois de très près. Et quand vous mettez les pieds sur le terrain spirituel, vous rencontrez les bons esprits, mais vous rencontrez aussi les mauvais esprits. Parce que dans le monde spirituel, il y a continuellement des combats entre les bons et les mauvais esprits. Ecclésiaste 10:1, les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfum. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Il faut à la fois encourager les gens à entrer dans la liberté de l'esprit, mais aussi à veiller. De peur que les mouches mortes, et Satan se fait appeler le seigneur des mouches, Belzébuth, infectent et fassent fermenter l'onction. À nous de savoir discerner les esprits. 1 Jean 4:1, bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Faites pas attention, c'est moi avec moi. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Alléluia. Et attention à toujours garder le fondement de la foi et de la parole. Qui dit foi dit automatiquement parole de Dieu parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Les signes, les prodiges, les sentiments, le côté visible, les guili-guili du Saint-Esprit, tout le côté spectaculaire, merci Seigneur, ce sont des choses formidables que nous sommes appelés à rechercher. Néanmoins, nous avons de l'assurance seulement si ces choses viennent se greffer sur le fondement solide d'une foi qui croit simplement la parole de Dieu avant de voir ou de sentir quoi que ce soit. Une foi qui peut s'approprier des promesses avec ou sans manifestation extérieure. Alléluia. Tu peux être guéri parce que tu sens un courant électrique qui passe à travers ton corps. Et puis tu peux être guéri en ne sentant rien du tout. Ce qui est important, c'est que tu sois guéri. Et puis tu peux sentir et ne pas être guéri. Et tu peux rien sentir et être guéri. Parce que ce qui fait la différence, c'est pas ce que tu sens, c'est ce que tu crois. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nulle part il est dit, si tu sens, tu verras la gloire de Dieu. Mais si tu crois et si tu sens, tant mieux. Mais parfois tu sens et parfois tu ne sens pas. Il y a des jours tu te lèves et tu sens la présence de Dieu. Il y a des jours tu te lèves et tu te sens sauvé. Il y a des jours tu te lèves, tu as l'impression qu'un rouleau compresseur t'est passé sur la figure. Et tu te mets devant la glace, oh, tu essaies de te rappeler ce que dit la parole à ton sujet. Vaillant héros, c'est moi le vaillant héros. Des fois tu te lèves, tu ne te sens pas sauvé, tu te sens perdu. Mais tu dois savoir que tu es sauvé. Alléluia. Parce que ta foi n'est pas bâtie sur ce que tu sens, sur ce que tu vois. Ta foi est bâtie sur ce que tu sais. Est-ce que tu sais bien de ce dont tu prends connaissance, que dit la parole de Dieu à ton sujet? Alléluia. Je suis non pas ce que je sens, je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis. Et quand je me sens petit, minable et incapable, si la parole de Dieu dit que je suis un vaillant héros, une merveilleuse créature, eh bien je choisis de croire Dieu. Que tout homme soit déclaré menteur et Dieu soit reconnu pour vrai, dit l'Écriture. Alléluia. Donc quand tu ne te sens pas très bien, ce n'est pas important. D'ailleurs, la meilleure chose à faire, c'est de ne pas confesser toute la journée « je me sens mal » parce qu'à la fin de la journée, on peut t'amener à l'hôpital. Vous ne savez pas que vous regardez un vaillant héros, là? Vous ne voyez pas le vrai moi. Le vrai moi, il est beaucoup plus grand. Il est beaucoup plus costaud. Je suis en train de regarder à de merveilleuses créatures. Ouh, quelle classe, les amis! Moi, je supporte plus ces prédications qui mettent toujours les gens plus bas que terre. On est des pécheurs. Il faut se traîner, se repentir, encore et encore. Jamais arriver à être digne. Mais on n'a pas essayé d'être digne, on a été rendu digne il y a 2000 ans. On a juste à rentrer dans notre position de chrétien digne, lavé par le sang précieux de Jésus-Christ. Amen. Et n'allez pas écouter des enseignements qui vous tirent vers le bas. Vous devez être tiré vers le haut. Il y a assez de raisons dans ce monde pour être tiré vers le bas, sans encore entrer dans une église pour être tiré vers le bas. Si on n'est pas tiré vers le haut dans une église, où il faut aller alors? Il faut aller voir les philosophes de ce monde, il faut acheter les bouquins de pensée positive. Mais il vaut mieux ça qu'entendre un mauvais sermon qui va nous dire à quel point on est petit, 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 petit. À la fin, tu veux disparaître sous la carpette. Oh, oh, oh. Oh, un peu de joie, là, allez. Si nous faisons des rires, des pleurs, des sentiments de chaleur, les conditions pour croire que Dieu nous touche, c'est le résultat inverse de celui voulu par le Saint-Esprit qui va se produire à la longue. Si nos réunions deviennent tributaires du vin nouveau, nous sommes en danger spirituel. Et c'est ce qui s'est passé. Quand le vin nouveau s'est répandu, dans les années passées, les gens ne faisaient plus que des réunions de vin nouveau, dont il n'y avait plus d'enseignement à un moment donné. Et si tu n'as pas d'enseignement régulièrement, eh bien tu vas être perdu par les mêmes choses qui sont en train de te bénir. Parce que pour avoir, on dit qu'il faut de tout pour faire un monde, il faut de tout pour faire une église, il faut toutes sortes de réunions pour faire une église. Et la Bible nous dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans la prière. Il faut des réunions de prière, des réunions de louange, des réunions d'évangélisation. Et ce qui est bon dans une réunion n'est pas obligatoirement bon dans une autre. Et des réunions où on recherche la présence du Saint-Esprit pour qu'il rétablisse la joie dans le cœur de son peuple. Mais toutes les réunions ne doivent pas devenir des réunions où on se prie dessus, où on se fait tomber. Est-ce que vous me suivez? Là, le diable nous pousse dans l'autre extrême. Et au bout d'un moment, le vin finit par tarir et par tourner. Nous risquons de faire tourner le vin nouveau si nous faisons des signes, un but. Lorsque divers signes se manifestent au sein de l'assemblée, certains commencent à penser, en voyant les autres être... touché sous cette forme-là, Dieu ne me touche pas. Il veut toucher les autres et pas moi. Vous voyez, le diable, il utilise toutes ces choses-là. Et pour peu que tu aies été dans un séminaire où quelqu'un y prie pour toi et il ne se passe rien, il te dit, bon, on va revenir tout à l'heure quand Dieu te touchera. Oh, il ne s'est rien passé, reviens au prochain séminaire. Mais qui t'a dit qu'il ne s'est rien passé? Alors ce qui a été bon pour un devient l'occasion de chute de l'autre. Et même certaines réunions où des personnes sont guéries, la manière parfois dont on présente la guérison donne l'impression que tous ceux qui ne sont pas guéris, Dieu ne les aime pas. Parce qu'il y a des nuances dans la guérison, il y a des dons différents que Dieu donne, il y a des choses que Dieu va faire dans une réunion, pas dans une autre, et il y a différentes sortes d'onctions, et parfois dans une réunion, il y a juste une ou deux formes d'onctions qui sont en action, et pas les autres dont on a besoin aussi, mais qui seront en onction dans une autre réunion. Et Dieu n'aime pas moins celui qui n'est pas guéri que celui qui a été guéri. Simplement, il veut nous enseigner à travailler ensemble pour mêler toutes les onctions, pour que ce qu'un n'a pas pu faire par son onction, l'autre le fasse. Et chaque ouvrier passe l'un derrière l'autre avec son onction, ce que n'a pas pu faire le précédent, l'autre le fait. Ouh ! Ça, c'est la vision glorieuse de l'Église. Quelqu'un dira, tant que je ne suis pas touché comme mon voisin qui rit ou qui est pris de tremblement, je ne crois pas que Dieu me touche. Mais oui! Tourne-toi vers ton voisin, dis-lui, mais oui, ne t'inquiète pas. Donc il est important ici d'exposer ces vérités, je ne vais pas être long encore. Lorsque se produisent les manifestations de l'Esprit d'ailleurs, sauf cas particulier, d'une visitation particulière où tout le monde va se retrouver par terre, ça existe aussi, tous les gens ne se trouvent pas touchés par ces manifestations. Et cela ne signifie pas que Dieu ne travaille pas sur eux ou en eux. Jonathan Edwards, sa femme était tellement saoule à longueur de journée que souvent elle mangeait la soupe, elle tombait la tête première dans l'assiette de soupe. Et lui, il n'était pas touché comme ça, comme moi et mon épouse. Les gens sont différents, ne recherchons pas l'expérience de l'autre. Le jour de la Pentecôte, d'ailleurs, regardez, Pierre n'était pas touché comme les autres, puisqu'il fut dit de ce qu'on voyait, ils sont pleins de vin doux. Mais Pierre, lui, il pouvait parler clairement. Vous avez déjà vu quelqu'un plein de vin doux? Il y a un micro, il est là. Mais lui, il pouvait parler clairement, donc il n'était pas sous la même onction. Vous êtes d'accord avec moi? Et pourtant, il était sous l'onction du Saint-Esprit. Alors tu peux être sous une autre onction qui est complémentaire avec l'onction de ce qui se passe ici. Et je dirais d'ailleurs que dans ces rassemblements, il est bien que certains gardent la tête sur les épaules parce qu'ils servent de colonne au temple pour que pendant que ça bouge autour, ils veillent. Donc si Dieu t'appelle à être un veilleur, alléluia, ne cherche pas la manifestation de l'autre, sois heureux avec ce que Dieu te donne. Ne te sens pas inférieur, ne te sens pas supérieur. Amen. Nous sommes différents. La différence n'est pas une tare, alléluia. On n'a pas la même queue de cheval. Amen. Vous n'êtes pas obligé de me ressembler, je ne suis pas obligé de vous ressembler. On est différents, on a le droit d'avoir des goûts différents, d'aimer des couleurs différentes, alléluia, et d'être visité différemment. Le Dieu qui a créé la nature, c'est le Dieu de l'Église, c'est le même, le créateur du ciel et de la terre, vous êtes d'accord avec moi? Il n'a pas créé la nature en noir et blanc, c'est plein de couleurs, c'est plein de variétés. Amen. Alors pourquoi on rentrerait dans une église et tout le monde se ressemble? Vous avez vu un témoin de Jéhovah, vous en voyez un, vous les avez tous vus. Vous avez vu un mormon, vous en voyez un, vous les avez tous vus. Bien nous, on veut la diversité, des couleurs, alléluia. Merci Seigneur, qu'est-ce que c'est triste quand on rentre dans un lieu et qu'il n'y a que des personnes d'une seule couleur, que des blancs ou que des noirs. L'Esprit de Dieu, le royaume de Dieu, c'est multiculturel. Pas que des vieux, pas que des jeunes. Dieu, il veut mélanger tout ça. Et tout ça, c'est un facteur d'onction. Plusieurs nations réunies, des hommes, des femmes, des vieux, des jeunes. C'est le contraire de ce qui se passe dans le monde. Dans le monde, on forme des clans. Les rockers sont avec les rockers. Les babacools sont avec les babacools. Les modes sont avec les modes. Mais nous, Dieu, il nous réunit et il veut nous faire réussir l'exploit de nous faire vivre ensemble. La plupart, on ne se serait même pas parlé avant de connaître Jésus. Rien que voir le look, on aurait dit celui-là, je ne lui parle pas. Et ça marche dans les deux sens, vous savez. Il y a ceux qui ne parlent pas aux chevelus parce qu'ils les trouvent zarbi, et il y a les chevelus qui ont leur orgueil, qui disent celui-là, sa coupe de cheveux, elle ne me convient pas, c'est trop court. Son costard cravate, là, c'est mauvais genre. Amen. Et Dieu veut réussir l'exploit de nous faire vivre ensemble. Parce que nous l'avons vu, si on n'apprend pas à vivre avec d'autres, on n'aura jamais l'onction nécessaire pour briser les jougs. Alléluia. Alors peut-être vous avez eu des expériences mauvaises dans votre église ou autre, mais que vous le vouliez ou pas, vous allez être obligé de travailler avec des gens. Vous allez être obligé de vous engager à fond avec certaines personnes. Vous ne pouvez pas dire parce que j'ai été blessé, maintenant je m'engage qu'à 50%, tu auras une vie à 50%. Tu es obligé de trouver des gens et personne ne te force à être dominé par quelqu'un par qui tu ne veux pas être dominé, mais tu es obligé de travailler avec des ministères, alléluia, et pas à moitié dans les temps dans lesquels nous sommes rentrés, mais à fond. Parce que la grippe aviaire et compagnie, ça va se répandre, pas à moitié, ça va se répandre à fond. Et ceux qui seront protégés, c'est les gens qui ne sont pas à moitié sous la protection de Dieu. Alléluia. Ouh, et c'est votre faute, hein, vous me tirez la prédication là. J'essaie de m'arrêter, moi. Alors, être visité sous ces formes, je l'ai dit, très visible, merci Seigneur, et il le faut, moi, ça me plaît beaucoup. Hein. Mais ce n'est pas un critère de spiritualité. Et attention, parce que certains de ceux qui réagissent au quart de tour à cette forme de visitation sont parfois aussi ceux qui réagissent au quart de tour aux visitations du diable. Les gens qui sentent beaucoup Dieu, et tant mieux. Mais j'ai remarqué, ce sont souvent les gens qui viennent me voir aussi, qui me disent qu'ils sentent Satan continuellement. Parce que ces gens sont parfois plus sensibles aux esprits en général. Donc, si vous avez un appel plus prophétique, c'est merveilleux, développez cet appel. Mais sachez que vous avez une sensibilité qui ne vous rend pas supérieur aux autres parce qu'ils ont une autre sensibilité dans un autre domaine, mais vous avez une sensibilité à sentir dans le monde spirituel, mais vous sentez les bons et les mauvais esprits. Et vous risquez d'être plus déséquilibré que les autres si vous ne veillez pas. Vous risquez de monter, descendre, d'être un bipolaire spirituel. Combien de personnes, plusieurs de mes amis dans le passé, dans le ministère, étaient des gens, il me semblait au départ qu'ils avaient plus d'excitation que moi, quoi, c'est peut-être difficile. Un jour, ils voulaient sauver le monde entier, le lendemain, ils voulaient se suicider. Donc, je ne comprenais plus. Parce qu'ils n'arrivaient pas à marquer une limite d'équilibre. Amen. Combien des amis, des évangélistes, des amis prophètes à moi. Ça y est, ils avaient la vision de Dieu, Dieu leur avait parlé, et Dieu leur avait vraiment parlé. Et ça y est, ils allaient faire ceci, cela, cela, sauver le monde entier. Et le lendemain, tu le rencontres, le même gars, il te dit, tiens, ce matin, je me suis levé, il m'est venu cette pensée de me suicider, j'en ai marre de la vie. Oh, tu es monté et t'as pas vu quand tu descendais et t'as pas su arrêter la machine au milieu. Trouvons notre équilibre. La maturité fera toute la différence et c'est elle qu'il faut que ces gens recherchent en priorité. Tu ne vis pas en fonction de ce que tu sens. Quand tu te sens bien, Dieu est avec toi. Quand tu te sens mal, Dieu est avec toi. Parce que la Bible dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Ah oui, mais je ne le sens plus. Mais qui t'a dit que tu devais le sentir tout le temps? Et vous savez, les choses parfois qui nous empêchent de sentir Dieu ne sont pas toujours si compliquées. Si vous savez qu'est-ce que vous avez fait de mal et qui en conséquence vous empêche de toucher Dieu du doigt, bon, c'est plus grave. Mais à la rigueur aussi, ça peut se régler. Donc, il n'y a rien de dramatique avec le Seigneur. Mais si vous ne savez pas, à la rigueur, c'est mieux. Parce que si vous ne savez pas, ce n'est pas obligatoirement un problème spirituel. Vous avez peut-être tout simplement mal digéré le steak de la veille. Alors, la veille, vous êtes levé, vous sentiez Dieu. Entre-temps, un steak, une pizza a été mal digéré. Vous vous levez le lendemain d'après, vous ne sentez plus Dieu. Mais Dieu, il n'a pas changé, lui. Vous n'avez pas commis de péché entre-temps. Mais le diable, il vient souffler à tes oreilles. Tu as dû faire quelque chose qu'il ne fallait pas. Cherche ailleurs. Il y a les gens qui cherchent, ils ne trouvent pas, ils continuent à chercher jusqu'à ce qu'ils trouvent quelque chose. Parce que s'ils ne trouvent rien, ils en créent un. Ou alors il tombe quelqu'un qui vient et Dieu m'a montré, il y a un super besoin de repentance dans ta vie. Lorsque tu avais 10 ans, il s'est passé ça. Il y a des jours, il vaut mieux pas rencontrer certaines personnes et certains chrétiens. Ok ? Parce qu'ils vont vous compliquer la vie, ils risquent de vous la compliquer pour 10 ans, vous risquez de tomber sur leur coupe, ils risquent de vous manipuler sous prétexte de vous aider, et ça c'est de la sorcellerie charismatique. Alors nous voulons libérer le Saint-Esprit, on ne veut pas libérer des démons au milieu de nous. Alléluia. Amen. Shabbat. Donc Dieu est là, nous terminons et nous touche si nous le croyons indépendamment de toute manifestation visible. Attention aux deux esprits. Essayons de rester sous l'esprit de Dieu et de discerner si le diable va nous faire passer sous son esprit à lui tout en se faisant passer pour Dieu. Parce que dites-moi, lorsque le diable est venu tenter Jésus dans le désert, il n'est pas venu, comme je le dis souvent, le tenter avec le manuel du parfait petit sataniste à la main. Il est venu le tenter avec la Bible, avec des versets bibliques sortis de contexte. Et vous croyez que s'il l'a fait avec Jésus, il ne va pas le faire avec moi et avec vous? Parce qu'il savait qu'il y a plus puissant que le manuel du parfait petit sataniste. Il y a les versets bibliques sortis de contexte. Dans mes voyages, je croise continuellement des gens, des familles, des couples dont la vie a été ravagée par certains conseils enrobés de versets bibliques. Il y avait tous les versets bibliques à la clé. Le problème, c'est qu'ils étaient sortis de contexte. Et il détruisait au lieu de construire une personne. Il empêchait de se remarier pour le restant de sa vie. Il empêchait de voir un avenir et une espérance. Ça, ce n'est pas le Dieu que je connais. Dites-moi, il faut être, permettez-moi l'expression, gonflé quand même, pour venir trouver Jésus, le Verbe fait chair, et le tenter avec des versets bibliques. Il faut que ça ait une drôle de puissance, la parole de Dieu sortie de contexte. Donc c'est pas souvent ce que vous avez à craindre, même si ça fait partie des choses contre lesquelles il faut prier, c'est pas les satanistes qui prient contre nous. Oui, il faut prier contre ça, parce qu'ils le font. Mais c'est tous les chrétiens bien intentionnés qui ne savent pas manier la parole de Dieu. Ça, c'est encore plus dangereux pour briser votre vie. Une demi-vérité. Vous repartez de ce séminaire et vous avez saisi seulement une demi-vérité. Vous partez en courant avec cette demi-vérité et vous vous prenez un mur. Parce que ce n'est pas une demi-vérité qui a franchi, c'est la vérité. C'est pourquoi ça ne suffit pas d'entendre ce que vous avez entendu pendant ces deux premiers jours. Il faut entendre ce message aussi. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever nos mains tous ensemble et louer le Seigneur, et on va prier pour ceux qui le désirent, pour les malades, en priant.